Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour, enfin, peut-être une explication pourquoi avec Philippe Ducharme, notre chroniqueur scientifique, je parlais, on se revoit sur la patinoire, parce que votre humble serviteur ici au micro, handicapé visuel, joue au hockey sonore avec les Hiboux de Montréal et M. Ducharme, il est un bénévole voyant. De temps en temps, il est sur la patinoire et on partage cet amour du hockey en plus de la curiosité scientifique. Cela dit, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Monique Millette. Bonjour, Mme Millette.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale du Centre de répit dépannage aux Quatre Poches à Boucherville. Et c'est une année importante pour votre organisme parce que vous fêtez vos 30 ans.
Effectivement, oui. Aujourd'hui, le centre a été créé en 1992, donc on fête notre 30e anniversaire cette année. Je peux mentionner également M. Roger Maisonneuve,
oui,
qui est notre président du conseil d'administration depuis tout ce temps et un des membres fondateurs
du Centre des Poches. Parce que ça a commencé finalement par des familles qui avaient des besoins et qui se sont retrouvées autour d'une table de cuisine, si je peux dire, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir les ressources nécessaires.
Oui, c'est à peu près ça. Ça a parti de familles dans le besoin qui avaient un enfant avec un handicap intellectuel, avec ou sans handicap physique. On accueille aussi 50% de notre clientèle, c'est des jeunes qui souffrent de spectre de l'autisme. Donc, ces parents-là se sont réunis, puis on fait beaucoup de démarchages pour avoir des commanditaires pour construire le centre. Donc, la ville de Boucherville a toujours aidé grandement le centre. Donc, le terrain leur appartient, mais la bâtisse appartient au centre Quatre Poches.
Et ce que vous faites, c'est de permettre à des parents d'avoir un peu de répit. Donc, vous accueillez, l'enfant qui est en situation d'handicap. Ça peut être maintenant des jeunes adultes, parce que après 30 ans, tout le monde grandit.
Absolument. Je dis toujours des jeunes, mais on en a jusque dans le début quarantaine. Donc, on couvre quand même assez large. Nos jeunes, il y en a qui sont ici depuis le début du centre, donc on ne les met pas à la porte, on les garde jusqu'à temps qu'on puisse leur donner le service. Donc, nous, notre service se divise en deux volets.
D'accord.
Sur semaine, du lundi au vendredi, on a le volet programme 21 ans et plus. Donc, ce sont des jeunes qui ont plus vraiment de services là, dans le système. Donc, ils ne vont plus à l'école. Nous, on les accueille de 9h à 4h du lundi au vendredi, mais il y en a qui viennent 3 jours, il y en a qui viennent 2 jours, il y en a qui viennent 4 jours. Donc, ça donne aussi du répit aux parents, mais on a nos éducateurs qui leur font faire des exercices de repérage, des activités pour pas qu'ils perdent leurs acquis.
Oui.
Donc, ça, c'est le programme 21 ans et plus.
Et
la fin de semaine, du vendredi au dimanche, les jeunes arrivent vers 5 heures le vendredi et peuvent repartir le dimanche vers 5 heures aussi, ce qui donne un beau répit de fin de semaine.
Alors, vous accueillez les jeunes, en fait, pour le coucher du vendredi puis du samedi soir?
Oui, absolument. On a 12 lits. 12 chambres, c'est-à-dire, puis c'est ça. Fait que les jeunes, on peut les accueillir jusqu'à une douzaine pour dormir, mais c'est sûr que le jour, ça peut monter à 20-22 jeunes.
D'accord. Parce que le samedi puis le dimanche, ben, il peut y avoir des activités de jour, un peu comme pendant la semaine.
Et, absolument. C'est ça, il y a des parents qui décident d'envoyer leur enfant seulement pour la journée, mais d'autres pour toute la fin de semaine.
Et Ça doit demander quand même du personnel assez nombreux, parce que c'est quoi le ratio entre le nombre d'éducateurs par jeune que vous accueillez?
Nos ratios sont de 1 éducateur pour 2 jeunes, mais on a à peu près 20% de nos participants que c'est 1 éducateur pour 1 jeune.
D'accord.
Donc, oui, effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de personnel et c'est l'enjeu qu'on vit depuis quelques années, comme tout le monde, l'enjeu de manque de personnel, manque de ressources. Alors, on est toujours en train d'embaucher du nouveau personnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, étant un organisme à but non lucratif, on n'a pas les moyens de payer les mêmes salaires que dans le réseau. Donc, c'est beaucoup des étudiants qui étudient dans le domaine, que ce soit pour devenir éducateur spécialisé ou dans l'enseignement ou en soins infirmiers. C'est pas mal la majorité là, de nos employés qui travaillent au centre.
Donc, c'est des gens tout de même qui ont une formation, qui les destinent à avoir une relation d'aide avec des personnes en situation de handicap intellectuel?
Bien, je vous dirais la majorité, oui, mais on en a certains qu'ils ont une âme de missionnaire. Donc, dans le fond, c'est ce qu'on demande à nos employés. Il faut avoir le don de soi parce que s'occuper de jeunes handicapés, c'est pas toujours facile. On vit quelquefois des désorganisations, des jeunes qui peuvent devenir violents. Qui peuvent blesser les éducateurs, mordre, tirer les cheveux. Ça, on vit ça régulièrement. Donc, il faut avoir vraiment le don de soi pour travailler avec ces jeunes-là.
Quelle est la capacité du centre? Combien de personnes recevez-vous? Là, on a compris que vous aviez 12 chambres pour les clients, vos participants qui vont passer le week-end. Mais pendant le jour, il peut y avoir combien de personnes à l'intérieur du centre là, pour les activités?
Dans un monde idéal, si on avait le personnel, tout le personnel qu'on aimerait avoir, on pourrait accueillir jusqu'entre 25 et 30 jeunes.
OK, par jour, en même temps.
Mais dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. À cause de nos ratios qui sont de 1 pour 1 ou de 1 pour 2, ça prend beaucoup, beaucoup de personnel. Puis c'est ce qu'on vit, là. Puis c'est dommage parce qu'on reçoit, il n'y a pas une journée qu'on ne reçoit pas un appel d'un parent qui est démuni, qui ne reçoit pas de service, qu'on est obligé de lui dire « je ne peux pas vous aider
». Oui.
On a une liste d'attente de plusieurs années.
C'est ce que j'allais dire. Un service comme celui-là, vous êtes à Boucherville, là. C'est sûr que vous vous faites connaître dans toute la Montérégie. Et s'il y a des familles qui sont qui grâce à vous, ont un répit puis en même temps un soutien dans les acquis depuis plusieurs années, vous créez une réputation, vous créez de la demande. Là. Et ça, il y en a de la demande.
On couvre quand même large. On est la grande Montérégie, donc on couvre de Sorel à Vaudreuil. On a des jeunes qui viennent de Châteauguay. On ratisse assez large. Mais aussi, c'est que nos jeunes qu'on intègre, on les a pour toute leur vie, là. À part un déménagement, un décès ou un placement, les jeunes, ils restent toujours là, à quatre poches.
Okay.
Là, ils ne partent pas du centre. Là. Donc, c'est difficile d'intégrer de nouvelles personnes.
Ben oui, c'est ça. C'est quoi votre ratio, votre roulement? Vous avez combien de places qui s'ouvrent par année?
Je dirais que depuis 2 ans, on a fait aucune intégration.
Ouf, OK.
Aucune intégration, premièrement à cause de la COVID, puis à cause de la COVID, on était pendant 2 ans avec des ratios de 1 pour 1 toujours. On limitait les places aussi disponibles pour qu'il y ait moins de jeunes dans les salles en même temps.
Parfait.
Parce que nos jeunes ne peuvent pas porter le masque.
Non, exact. Mais tout de même, ça veut dire que les gens qui sont sur la liste d'attente, là, ça peut être très long.
Oui, c'est très long. Avant ça, on disait, on a 3 ans d'attente à peu près, mais maintenant, je le dis même plus pour pas créer. C'est plus que ça, là. Ça peut être 5-7 ans
d'accord.
d'attente. Ces parents-là sont démunis.
Bien, je comprends. Puis, en fait, il y a deux choses, c'est trouver du personnel puis trouver du financement. Comment est-ce que vous financez vos activités?
Bon, nous, c'est sûr qu'il y a un tiers à peu près de nos dépenses qui on a une subvention. Nos tiers, c'est les parents qui payent pour envoyer leurs enfants. Et l'autre tiers, par contre, qui est une grande partie, c'est nos activités de financement.
OK. Donc là, vous faites appel au public, à la générosité du milieu.
Absolument. Puis c'est sûr que toutes les causes sont bonnes, hein, puis il y en a de plus en plus. Il y en a qui ont plus de visibilité que nous, c'est sûr. Puis on n'a rien contre ça parce qu'on tout le monde se tient dans la communauté, puis tout le monde travaille dans le même temps, on veut offrir des services à nos jeunes, mais c'est sûr que c'est difficile quand on n'a pas de porte-parole qui est très connue, qui va aller nous donner plus de visibilité. Fait qu'on travaille fort pour aller chercher pour bonifier nos activités de financement aussi.
Parce que si vous aviez plus d'argent, pourriez-vous avoir plus de personnel ou si vous aviez plus de personnel, auriez-vous assez d'argent? De quel côté entre la quantité de personnel disponible puis l'argent disponible, par où commencez-vous si vous voulez croître?
Ben, c'est sûr qu'avoir plus de ressources financières, on pourrait. Nous, il y a des jeunes, des étudiants là, qui viennent travailler chez nous. Puis dernièrement, on a augmenté nos salaires de 2 $ de l'heure.
OK.
C'est quand même pas à dénigrer. Mais dans le réseau, ils ont les moyens de payer 22-23 $ de l'heure leurs employés. Ouais. On est en compétition, dans le fond. Là.
Exact,
nous,
tout à fait.
Nous, on garder notre personnel, mais ils font offrir des emplois plus payants pour la même tâche. Donc, c'est difficile de garder notre personnel, malgré le fait que je considère qu'on les paye quand même.
Bien, votre milieu est peut-être différent, cependant. Peut-être que vous dites que c'est la même tâche, mais on peut croire qu'un milieu comme le vôtre où... il se crée nécessairement un esprit de communauté avec des jeunes qui sont là depuis des années, ainsi de suite, puis des traditions, des habitudes. C'est à échelle beaucoup plus humaine, là. C'est certain que ça peut être... Il peut y avoir un attrait de travailler dans une structure comme celle-là. Parce que vous offrez aussi des camps de jour, je pense, ou même des vacances aux familles.
Oui, l'été, quand l'école est terminée, le centre est ouvert 24 heures sur 24, donc de fin juin à fin août. Il y a des camps de jour, mais il y en a aussi qui peuvent, les parents peuvent partir 10 jours consécutifs dans l'été pour permettre une petite vacance, un petit voyage. Tout ça, ça demande beaucoup de personnel. C'est sûr qu'on est capable de peut-être de donner un petit peu moins de répit à ce qu'on donnait dans les années antérieures quand il n'y avait pas la pénurie de personnel, mais on travaille très fort là, pour toujours réembaucher, puis former notre personnel, puis aider nos familles à survivre dans ce qu'ils vivent.
Oui, et je pense qu'il faut souligner la collaboration, le soutien de la ville de Boucherville, là, parce que la ville vous a vraiment adopté.
La ville, oui, puis ils ont adopté plusieurs organismes d'ailleurs, mais entre autres le nôtre, on est très fiers. Le maire Martel est toujours derrière nous, il assiste à toutes nos activités, donc on est chanceux de ce côté-là.
Ben, il nous reste plus qu'à souhaiter un autre 30 ans, hein?
Oui,
où serons-nous à ce moment-là? Mais il y aura certainement des gens qui auront besoin de vous, de trouver un autre, de nombreuses années... au centre de répit d'épanage aux quatre poches. Bien, merci beaucoup, Mme Millette.
Bien, merci à vous.
Et
merci.
Bonne chance dans votre acquisition de personnel, dans votre financement, puis de pouvoir
Parfait.
Continuer à élargir vos services.
Bien, merci beaucoup à vous.
Merci.